I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les étoiles sont le chat à venir. On écrit sur les murs de nos rêves. Et on écrit sur les murs de nos rêves.
Rêver, imaginer, se lancer, réécrire et rebondir, c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le Tourbillon Family. Elles accompagnent notre quotidien de femmes, de futures ou jeunes mamans, nous soutiennent dans la maternité. Elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors, qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille? En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family. Pour ce troisième épisode, nous allons voyager entre la Thaïlande et Ibiza, entre la mode et la volonté de faire les choses correctement, entre l'enfance qui marque et des chiffres qui comptent. Tara est la fondatrice de Numéro 74, la marque qui décore les chambres des enfants, habille les bébés, inspire les parents et accompagne vos sessions de yoga. Numéro 74 parle donc à toute la famille avec uniquement des produits fabriqués à la main. Et tout a commencé lors d'un voyage, lorsque le petit garçon de Tara a un véritable coup de foudre pour un éléphanto thaïlandais. S'en suivent des allers-retours en Thaïlande et la rencontre avec un chauffeur de tuk-tuk qui deviendra l'associé de Tara. Tout un merveilleux réseau local se met alors en place et c'est une centaine de femmes de petits villages, de coopératives ou en prison qui s'organisent pour confectionner chaque idée qui sera vendue. 10 ans plus tard, c'est à Ibiza que Tara poursuit sa vie et crée un lieu qui rassemble la créativité, les rencontres et le partage. Et l'aventure ne s'arrêtera pas là. Dans cet épisode, Tara nous raconte son enfance marquante auprès d'une maman dépressive, sa soif de liberté depuis toujours et son saut dans l'entrepreneuriat. Elle nous parle du sens qu'elle met dans son projet sans se prendre au jeu de la course aux chiffres et de l'importance de protéger ses rêves pour les réaliser. Bonne écoute.
Bonjour Tara.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de venir nous raconter ta belle aventure entrepreneuriale dans le Tourbillon Family.
Avec plaisir.
Tu es la fondatrice de Numéro 74. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus brièvement sur cette jolie entreprise que tu as créée?
C'est comme un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est une aventure qui n'était pas planifiée, qui vient toujours d'un besoin ou d'un désir personnel. Donc à l'origine, c'était l'ex-femme de mon cousin en Italie qui venait d'accoucher de jumeaux. Et elle m'a demandé de m'occuper de la décoration de la chambre des enfants, et ce que j'ai donc fait. Et quand elle a vu ce que je faisais, elle m'a dit « Mais alors, faisons quelque chose avec et faisons-en une forme de business. » Et voilà, c'est parti comme ça. J'étais passionnée de vintage. Et puis, j'aime faire les choses avec les mains. Donc, c'était un petit peu un mélange entre chiné, restauré, et puis tricoté, crocheté, moi-même des couvertures. Ça a démarré comme ça.
Et alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Numéro 74?
Aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a plus vraiment de limite, puisque à chaque fois que j'ai un besoin personnel ou que dans l'équipe, il y a une idée ou un besoin qui vient toujours... d'un besoin personnel. Rien n'est jamais fait sans cette raison-là. Donc au départ, c'était surtout le monde du bébé, de l'enfant. Et puis, au fur et à mesure, quand moi j'ai commencé à me faire les mêmes robes qu'on avait pour les petites filles pour moi, les copines m'ont demandé, alors on a fait les mêmes pour les mamans. Donc on a développé un petit peu la mode pour la femme. Après, on a rajouté tout ce qui est linge de lit, etc. pour l'adulte aussi. Et puis on a créé il y a pas longtemps des kits créatifs. Donc c'est un vrai mélange, c'est un bazar. On va sortir des parasols, des paniers à pique-nique, de la vaisselle. Voilà, et un peu, ça touche un peu de tout. C'est un grand bazar, on va dire.
Alors, on va revenir un petit peu à ton enfance, à toi. Savoir un petit peu dans quel cadre tu as grandi, quels étaient ton entourage, où est-ce que tu as passé ton enfance.
Alors, moi, je suis née à Paris. Je suis née dans le 15e arrondissement. J'ai vécu là jusque l'âge de 10 ans, à peu près. Mon papa, professeur de mathématiques, ma maman ne travaillait pas. Et j'ai vécu dans... J'ai pas eu une enfance très facile. J'ai une maman très fragile psychologiquement. Et très tôt, j'ai été confrontée en 1974 aux premières tentatives de suicide de ma mère devant moi. Donc on va dire que j'ai vécu dans une atmosphère... Alors j'étais extrêmement choyée par mon père et par mon grand frère. Ma mère aussi à sa façon, mais dans ses propres limites, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais donc j'ai été un petit peu, je pense, à essayer de jouer le rôle de celle qui allait essayer de mettre un petit peu de lumière et de folie et de gaieté dans une atmosphère un petit peu sombre. Et je pense que c'est de là surtout que vient mes besoins de rêverie, de poésie, d'inventer des atmosphères magiques pour les enfants, pour essayer d'adoucir un petit peu la difficulté parfois du quotidien quand on n'est pas du tout préparé à vivre ces choses-là.
Tu créais toi déjà quand tu étais petite justement ce...
Alors ma mère m'a appris le... Alors pas vraiment le monde imaginaire, j'ai commencé à le faire pour mon petit frère. J'avais commencé à créer, ma mère m'avait appris à faire du crochet très tôt, donc j'ai commencé à faire du crochet très tôt. Et puis ensuite, c'est surtout quand mon petit frère est né que j'ai pris un peu comme mon fils, parce que je pensais que ma mère ne serait pas capable de s'en occuper, donc que ce serait mon rôle. Et donc là, pour lui, j'ai commencé à créer des fêtes, lui fabriquer des déguisements, à rentrer un petit peu dans cet univers festif, magique, lui faire des ailes de papillon, des capes de magicien, avec des bouts de papier, de carton, de tissu. Ça a commencé, je pense, comme ça. J'ai commencé à découvrir un petit peu, je pense, cet aspect un peu créatif via mon petit frère.
Et tu jouais à quoi, toi, du coup, quand tu étais petite ?
Je jouais aux poupées. Je jouais aux poupées et avec un papa professeur de mathématiques, je jouais avec les numéros, avec les chiffres. Donc, je comptais beaucoup. Mon père nous a assez poussés du côté scientifique. Donc ça faisait partie de mon quotidien de passer mon temps à tout calculer.
déjà un peu dans le business.
Oui, c'était, je sais pas, c'est vraiment les chiffres. Pour moi, les chiffres, c'est pas le business. Moi, j'aime énormément les chiffres. 74, j'avais créé une autre marque qui s'appelait 07800, quoi. J'adore les chiffres. Et pour moi, c'est un jeu. C'est un vrai jeu, les chiffres. On peut faire plein de choses avec et il y a un côté magique dedans. Donc, c'est un petit peu sous cet angle-là. Mais c'est vrai qu'on partait en voiture et quand on partait en vacances, mon père nous disait, bon alors, on va à tant de kilomètres, on roule à telle vitesse, dans combien de temps on va arriver, qu'on passait notre temps à calculer, quoi. Voilà. Donc, il y a eu un petit peu de travail pour déprogrammer ces automatismes de calcul et pour arriver à être un peu plus dans le moment présent.
Et alors tu disais que tu avais vécu 10 ans à Paris, ensuite vous avez déménagé, c'est ça ?
Non, pardon, j'ai vécu 10 ans dans le 15e arrondissement, là où j'ai grandi, après on a changé de maison, toujours dans Paris. Ensuite, alors moi je voulais arrêter l'école très tôt, à 14 ans, c'était... Ça sert à rien, papa, l'école. Alors, imaginez pour un professeur de maths et en étant première de la classe. Donc, c'est quand même... c'était terrible. Donc, tous les ans, je le suppliais que ce soit la dernière année. Bon, j'ai tenu jusqu'au Doug... jusqu'au doc scientifique à Dauphine. Et puis là, j'ai dit, papa, il faut que je te dise la vérité. Je rentre pas, parce qu'il me déposait le matin à la fac, parce que ça correspondait à ses horaires, lui, de lycée. Et je rentrais d'un côté et je ressortais par l'autre côté. Et je séchais tous les cours parce que je me sentais pas bien du tout. C'était pas mon environnement. Donc je préférais me promener dans Paris, regarder l'architecture. Et puis un jour, il est venu, il me dit « Mais écoute, c'est pas possible, ça fait je sais pas combien de mois que ton livre est ouvert à la même page dans ta chambre, donc je comprends bien qu'en réalité, tu fais rien. » Et j'ai dit « Bah, j'en peux plus. » Donc j'ai arrêté la fac, j'ai été passée quelques mois avec mon frère dans la finance, et là, j'ai aussi compris que c'était pas du tout mon monde. Et de là, j'ai créé une société d'événementiel spécialisée dans tout ce qui était monde de l'enfant, les anniversaires, les arbres de Noël, les événements. Parce que quand j'étais étudiante, pour gagner un petit peu de sous, je faisais fée pour... à l'époque, c'est une société qui existe toujours, qui s'appelait le Chocolat Chaud. Et donc, je travaillais... de temps en temps, le week-end, le mercredi, avec des enfants pour des anniversaires. Et donc, quand j'ai arrêté la fac et puis cette très courte expérience dans la finance, j'ai dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être fait à temps plein pour les anniversaires d'enfants. Et donc, j'ai créé donc cette entreprise qui s'appelait à l'époque Comme dans un rêve. Et puis ça a très bien fonctionné. Donc au départ, j'étais la seule fée, mais après j'avais une compagnie de fées, on va dire. J'ai fait ça pendant 10 ans. On travaillait essentiellement avec, on a fait l'ouverture de Disneyland Paris et on était en charge des événements spéciaux là-bas. Comme intervenant extérieur, mais c'était nous qui faisions tous les événements spéciaux et ça a été plusieurs années incroyables où on faisait des choses sans limite, puisque bon, quand on est là-bas, ouais, c'est sans limite. Et voilà, j'ai fait ça pendant 12 ans.
Et après, donc en fait, t'es passé directement de tes études à l'entrepreneuriat.
Ouais.
Avec cette petite partie dans la finance qui
t'a plu. Rien, c'était juste une formation et non, ouais.
Comment tu as construit ton entreprise petit à petit tu connaissais rien, j'imagine, à tout cet univers de l'entreprise.
Non, bon, c'est quand même... C'est pas très compliqué, hein, je pense, tout ça. Je sais pas, je saurais même pas dire comment ça s'est passé. Parce que c'est vrai que dans ma famille, je n'ai pas... ils sont tous profs de maths, dans les maths. J'ai personne vraiment qui était dans l'entrepreneuriat. À l'époque, il n'y avait pas d'internet ou très peu, ou pas du tout. Non, il n'y avait pas d'internet. On avait le Minitel. je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait appel à l'ami d'une amie qui était avocat et j'ai dit comment il faut faire pour faire une entreprise. Il m'a dit tu vas là à la chambre de commerce, tu fais ça. Et puis voilà, j'ai fait ça. Puis après, j'ai demandé s'il connaissait un comptable, et puis voilà, ouais, ça s'est fait comme ça, très très facilement. Hein. Je me souviens pas bien, mais c'était assez simple.
Et alors ça, tu l'as fait pendant 12 ans, c'est ça?
Oui, pendant 12 ans.
Et c'était... pourquoi ça s'est arrêté?
C'était magnifique, extrêmement prenant. Je travaillais jour et nuit, je me cassais le dos, les échelles accrochées, c'est beaucoup de pression, hein, tout ce qui est événements spéciaux, c'est tout doit être prêt à un jour J, à telle heure, etc. J'ai adoré ça. Je pense que ça m'a vraiment apporté mon côté assez flexible. Je m'adapte aux situations, aux problèmes, etc. Et puis je suis tombée enceinte et puis j'ai accouché d'un petit garçon qui lui est né extrêmement prématuré. Ça a été une naissance très chaotique. Il va bien aujourd'hui, mais on a traversé l'horreur. Et donc, à ce moment-là, bah, c'était évident qu'il fallait tout arrêter. Et donc, j'ai arrêté et j'ai démarré une autre activité, mais qui demandait moins de présence. Donc, c'était en 99, j'ai lancé un site de vente en ligne d'articles pour anniversaire d'enfants. Mais c'était très très nouveau. Internet à ce moment-là était pas du tout l'Internet d'aujourd'hui. Chaque page, je mettais une minute à démarrer. Je pense que c'était trop tôt. Donc j'ai fait ça, ça a fonctionné un petit peu, mais je pense que les gens n'étaient pas encore prêts pour acheter en ligne, hein, parce que c'était il y a plus de 20 ans. Et donc j'ai ouvert deux magasins spécialisés là-dedans, dans les articles pour anniversaire d'enfants. Voilà.
Donc t'es resté complètement dans l'entrepreneuriat, jamais tu t'es dit que t'irais dans le salariat, c'était pas envisageable.
Non, c'était pas possible, non. Même en tant qu'entrepreneur, c'est difficile pour les gens avec lesquels je travaille de suivre mes besoins de création en permanence et de changement et d'investiguer, d'essayer. Alors, si c'était pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est absolument ingérable.
Et alors, à quel moment est venue la création de numéro 74? Comment t'es venue cette idée?
Ben, j'ai donc pendant à peu près à nouveau 6-7 ans, donc j'ai eu ces magasins et cet e-shop. Et puis on a été exproprié du magasin qui marchait le mieux, l'immeuble devait être démoli. Et en même temps de ça, je divorçais. Et puis là, je me suis dit, bon, t'as travaillé beaucoup tout le temps, t'arrêtant jamais. Donc j'avais 39 ans, je pense, à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de m'arrêter pendant, 6 mois pour faire le vide. Je voulais rencontrer le vide. Donc, ça faisait quelques années que j'avais commencé à mettre mon nez dans des livres un peu de spiritualité, de développement personnel, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais fait tous ces choix de vie et est-ce que c'était vraiment mes choix, etc. Et donc là, j'ai dit, ok, j'arrête tout et je vais rencontrer le vide. Et à ce moment-là, donc, la femme de mon cousin, comme je vous l'ai dit au départ, a accouché. Et donc, je me suis mise à tricoter des couvertures, pensant toujours que j'allais être dans mes 6 mois de vide absolu, là. Et puis finalement, mon ami me dit, mais allez, viens, on fait ça. Et je lui dis, non, écoute, vraiment, je veux faire un break parce que je suis épuisée. Et puis, mais allez, c'est sans obligation de résultat. Pour l'instant, tu ne fais que chiner des pièces en France et tu me les envoies en Italie, puisque elle était en Italie, et moi je m'occupe de les vendre, juste ça. Et puis, ben, 2 mois après, elle me dit, écoute, tu veux pas qu'on fasse maison et objet? Ah non, 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 non. Et puis finalement, ça s'est fait en... ça s'est fait un peu n'importe comment, parce qu'en fait, pour revenir un petit peu à l'origine, donc mon fils, comme je te l'ai dit, est né très tôt. Ça a été une naissance extrêmement difficile, moi très choquée, très compliquée de parce qu'au départ en fait on m'avait dit que je faisais une fausse couche, donc quelque part j'ai fait le deuil avant même qu'il naisse. Donc ça a été un traumatisme terrible. Et puis il est né à 5 mois, 700 grammes, donc il a fallu attendre quoi, il est resté 5 mois en réanimation, il a fallu attendre 3 mois avant qu'on nous dise que il était tiré d'affaire. Comme bon, c'était un parcours terrible pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et donc quand il est revenu à la maison, il respire encore avec les machines, etc. Mais il a été pas mis en contact d'enfant pendant 2 ans parce que très fragile et donc très peu au contact. Et quand il a eu 2 ans, nous sommes partis en Thaïlande en vacances avec lui et il a rencontré un bébé éléphant qui s'appelle Duna et il s'est créé quelque chose d'incroyable entre eux deux. Et on va dire que pendant quelques années, quoi, pas pendant quelques années, jusqu'à maintenant, j'ai essayé, maintenant il est grand, mais pendant quelques années, j'ai vraiment essayé de nourrir cette relation. Donc on allait 2 fois par an là-bas. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, il a des difficultés à avoir des amis. Et pour lui, c'est les animaux. Et il n'y a qu'avec eux qu'il arrive vraiment à communiquer, avec lesquels il se sent bien, etc. Et donc, c'était justement un moment où on était... Parce que quand mon ami me dit « on va à Maison Objet », je lui dis « écoute, de toutes les façons, Maison Objet, c'est complet, ils ne nous recevront pas avant un an. » Elle me dit « fais un dossier ». Bon, ok, j'envoie un dossier, j'envoie des photos. Et puis, il me dit « non, non, on est complet. » C'était le mois de décembre pour la session de janvier. « On est complet. On peut vous garder une place pour septembre parce qu'on trouve ça super ce que vous faites et qu'on n'a personne qui fait ce genre de choses. » C'était surtout du vintage. Donc, tout ce qui était enfant, les petites chaises, les voitures, tout le monde vintage de l'enfant, les jouets, etc. Si vous voulez, on vous met sur une liste d'attente pour janvier au cas où il y a un désistement de dernière minute, vraiment quelqu'un qui peut pas venir. Et donc, il me contacte, ça devait être le 2 janvier. Moi, j'étais en Thaïlande avec mon fils et ils me disent, eh ben, on vous attend le 20 janvier puisqu'on a eu un désistement. Et là, je dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va présenter? Donc, moi, je suis sur la plage en Thaïlande. Je vais voir ma copine masseuse et je lui dis, écoute, viens, on va à Bangkok. On va acheter du tissu, des trucs, on va tricoter, on va crocheter sur la plage avec tes copines, etc. Et donc, oh, de 30 en mouvement, on fait une petite collection. Et je rentre à les valises pleines à Paris et puis on fait Maison Objet. Puis là, on reçoit des tonnes de commandes. Et puis là, je me dis, mais comment je vais faire? Moi, je peux pas tricoter tout ça. Je peux pas. Donc je repars en Thaïlande. Entre temps, donc il s'est passé un petit peu de temps. En fait, on était en Thaïlande avec mon fils à Koh Samui, mais depuis quelque temps, l'éléphant avait déménagé de l'île à Chiang Mai. Et donc on coupait notre voyage en deux. On passait un peu de temps à la plage et le reste du temps avec l'éléphant à Chiang Mai. Et donc quand nous allions avec l'éléphant à Chiang Mai, on avait un chauffeur de tuk-tuk qui était devant notre hôtel, toujours le même, qui nous amenait voir Duna. Et donc ce fameux moment là où je suis allée à Bangkok puis à Chiang Mai avant d'aller sur Maison et Objets. Donc, je présente à ma copine masseuse le chauffeur de tuk-tuk. Et j'ai dit, va nous aider à trouver des tissus ici. Donc, on fait notre petit périple. Je rentre à Paris, on fait le salon. Et là, aussitôt, reçoit les commandes. Je dis, ok, bah, je repars en Thaïlande. Je sais pas comment je vais faire, mais je repars en Thaïlande. Et donc, je retrouve mon petit chauffeur de tuk-tuk. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu te sens de diriger des gens? Parce que je trouvais qu'il était très malin, quoi. Pas très malin, mais c'était pas une question de malin. Il était intelligent, il était posé, il comprenait, il savait, quoi. Il y avait quelque chose de merveilleux chez lui. Et je lui dis, combien tu peux gérer de personnes si on fait un travail ensemble? Il me dit, 100 personnes. Je dis, ok, d'accord, alors on y va. Et puis voilà. Et puis, c'est lui qui s'est occupé de lancer la production en Thaïlande, quoi. Ensemble, moi, j'étais avec lui, mais c'est lui sur place qui trouvait les gens, les matières, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on a démarré la production. Incroyable. En Thaïlande.
Et alors là, il se passe quoi, du coup? Vous finissez Maison et Objets, tu te dis que tu vas créer, du coup, une société à part entière.
On l'avait déjà créé juste avant Maison et Objets, parce qu'il fallait avoir une entité, etc., juridique et tout. Et puis là, on a commencé à produire et puis aller à faire le Maison et Objets d'après, tous les 6 mois, présenter des nouvelles choses. On est resté complètement dans ce système-là pendant plusieurs années, toujours guidé par de quoi avons-nous besoin pour nous-mêmes. Ressortant les souvenirs d'enfance, différentes choses, des films, des contes de fées, etc. Puis essayant de d'incarner à nouveau ces souvenirs à la façon du moment, avec les matériaux de Thaïlande, leur savoir-faire, etc. Et c'est vrai que ça a très bien marché tout de suite. Je pense que à ce moment-là, on n'était pas très nombreux dans le monde de l'enfant et on avait une spécificité assez particulière parce que on a tout de suite, moi je suis passionnée de couleurs, on a tout de suite sorti toute notre gamme en 10, 12, 13, 15 couleurs. Et ça, à l'époque, on trouvait une gigoteuse, on la trouvait en rose, en blanc, en bleu, mais on la trouvait pas en gris foncé, en... Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que, à Maison et Objets, on a quand même une clientèle internationale, même si, à cette époque-là, une grosse partie de nos était français. On a une clientèle internationale et donc d'avoir accès à toutes ces couleurs, je pense, a vraiment permis à certaines boutiques de pouvoir faire une sélection qui pourrait leur être propre. Et je pense que c'est ce qui a vraiment soutenu le projet, parce que on pouvait avoir 3 magasins de styles différents, mais qui à leur manière allaient créer l'assortiment qui allait leur correspondre, etc. Et notre gamme leur permettait ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça.
Il y a le choix des matières aussi. Comment tu as fait pour... tu es quand même dans un pays étranger. Tu fais confiance à ton chauffeur
qui devient aussitôt mon associé. Donc, on ne parle même plus de chauffeur de tuk-tuk. C'est mon associé. Il gère tout. J'ai une confiance totale. Je ne sais rien de ce qui se passe au niveau sous, banque. C'est lui qui gère tout. Et en maintenant pratiquement 12 ans de collaboration, on n'a jamais eu un souci. Donc, un homme absolument merveilleux. En fait, il s'est passé un jour où on était à Chiang Mai, dans les petites rues, dans le marché, à côté du marché où on vend les étoffes anciennes, les broderies anciennes, etc. C'est le marché où il y a quelques vendeurs de tissus. Alors, il y a des vendeurs qui sont des vendeurs de tissus, principalement venant d'Inde ou de Chine. Et puis, il y a 2-3 petits magasins où là, c'est tout très local. Donc, c'est les cotons tissés localement et la soie. Et là, en fait, je visite, donc c'est sur 4, tout petit, mais sur 4 étages. Et je suis émerveillée. Moi, j'adore tout ce qui est bazar, tout ce qui est local, de rencontrer les artisans, de me sentir vraiment chez les Thaïlandais, vraiment. Et donc là, on visite. Quoi, moi, je visite les quatre étages, minuscules, là, au milieu des sacs, des étagères, etc. Et quand on arrive au dernier étage, c'était un étage où je pense qu'il n'allait quasiment jamais. Et il y avait des montagnes, les étagères remplies d'étoffes, de soie et de coton, mais encore brutes, c'est-à-dire même pas lavées. Donc, quand les tissus ne sont pas lavés, on ne peut pas imaginer comment il va être une fois lavé. Et donc là, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, viens, on leur demande 1 mètre de chaque étoffe qui est dans ce lieu. Et donc, on repart avec, je ne sais pas, peut-être 100 d'étoffes différentes. On les coupe en 2 pour pouvoir les repérer. Avant, après, on les marque et on dit « Ok, on lave et on va voir ce que ça donne. » Et voilà, et donc on a lavé sans savoir ce que ça allait donner.
Vous avez lavé comment ?
On a lavé comme ça, à la main, avec ça. On a fait sécher en machine parce que... Non, je pense qu'on a lavé en machine. Je me souviens même plus. Je pense qu'on a lavé en machine, mais on a fait sécher en machine parce que le séchage en machine donne la texture au premier lavage d'un tissu. Il lui donne plus de texture si l'objectif c'est qu'il soit souple, confortable, etc. Je sais même plus. Hein, c'est vague. Je sais plus si ça a été lavé à la main ou même séché, je sais plus, mais ce que je sais, c'est que tout de suite, on a repéré 3 tissus, qui sont donc le double saloon, la gaze de coton, avec une double épaisseur de tissage, le simple saloon, qui est une simple épaisseur très fine de coton, et le thaï coton, qui est vraiment le coton local, avec lequel ils font les uniformes, quoi, ils font plein de choses avec, le bleu indigo, toutes ces choses-là, et voilà, et de là, j'ai dit, waouh, super, on a nos matières, allez, faisons des choses maintenant. Et voilà.
Et ils en avaient assez, justement, dans cette...
Non. Ouais. Donc là, on a été voir ensuite, quoi. C'est surtout Manop qui a développé ça. Et c'était très intéressant parce que, bon, le thaï coton, aucun problème, on peut le fabriquer, on peut le faire tisser dans plusieurs ateliers de tissage. Par contre, le double saloon, il a fallu qu'on trouve des ateliers qui avaient encore les machines relativement ancienne. On ne parle pas de la machine complètement manuelle comme ça. Hein. On parle de celle qui est déjà plus industrielle, mais malgré tout ancienne. Et donc on s'est retrouvé. Ça c'est à Bangkok que c'est tissé avec donc des partenaires pour refaire tisser ces deux tissus-là dont les gens ne se servaient pas beaucoup. Et le taille coton, c'était quelque chose qu'on trouvait facilement.
D'accord. Et alors avec les femmes, c'est notamment des femmes, je crois, qui s'occupent justement de toutes les matières. Tu as créé une coopérative.
Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est pas exactement une coopérative, quoi. Il y a des coopératives. Ensuite aussi, quelques années après, on est passé en bio. On l'était pas au départ. Donc, du coup, là, on s'est mis à acheter, pour que tu comprennes un peu les processus. On s'est mis à acheter la fibre au Sri Lanka. Ensuite, on l'importe en Thaïlande, à Bangkok, on tisse. On envoie les tissus déjà tissés à teindre. Tout cela arrive dans notre atelier à Chiang Mai. Et dans notre atelier à Chiang Mai, on a à peu près une centaine maintenant de salariés. Ça, ce sont des gens qui travaillent sur place. Effectivement, ce sont 80% des femmes. Les hommes qui travaillent dans l'équipe sont à la coupe de tissus et au tout ce qui est container, packaging, toutes ces choses-là. Donc on reçoit nos tissus à Chiang Mai, on coupe, ensuite on prépare des sacs avec pour chaque femme tout ce dont elle a besoin pour faire les pièces qu'elle va faire chez elle. Donc il y a les tissus, les zips, les fils, les care labels, toutes ces choses là. Et ensuite il y a plein de cas de figure différentes. Parfois, c'est une femme individuellement qui va venir à l'atelier et qui va prendre les matériaux, qui va faire à la maison et qui va ramener. Parfois, c'est une personne qui va représenter un village. Alors, parfois c'est via une coopérative, parfois c'est pas via une coopérative. Tout est possible. Et donc cette personne-là vient prendre pour toutes les femmes du village, ramène au village, elle fabrique et ensuite c'est ramené chez nous. Les autres possibilités, on a aussi par exemple des petits ateliers, c'est-à-dire que dans les villages, il y a deux cas de figure. Parfois, c'est que des femmes qui travaillent vraiment de chez elles, ou alors soit on a créé, soit elles ont créé elles-mêmes un petit lieu où on va avoir 5-6 machines à coudre et elles travaillent ensemble. Donc ça dépend. Et la dernière chose qu'on a mise en place, quoi. Alors donc très fréquemment, qu'est-ce qu'on fait ? On part former des femmes dans les villages et on essaie de créer l'infrastructure, le fonctionnement pour que ça puisse marcher. Et donc Manop, il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, s'est rapproché des prisons de femmes. Et donc avec les prisons de femmes, nous les formons au crochet et à la broderie. Et donc, elles apprennent, elles fabriquent. La moitié du revenu va à la prison, l'autre moitié va à la famille. Et elles ont une promesse d'emploi à la sortie de prison. Voilà. Donc, on va dire qu'il n'y a pas un modèle spécifique. N'importe quelle femme qui veut faire quelque chose, elle a quelque chose à faire. Et voilà, donc...
Tu imaginais, toi, un instant avoir cet impact sur toutes ces femmes, justement, c'est quand même très
J'ai pas conscience de ça, parce que moi, je trouve elles ont plutôt un impact sur moi plus que l'inverse. Non, j'ai rien imaginé du tout. J'ai rien imaginé du tout. Ce que je sais, c'est que tout s'est fait très, très naturellement. En tout cas au niveau de la production. Après, au niveau commercial, ça a été autre chose, on en parlera, mais au niveau de la production, ça s'est fait très naturellement. C'était une évidence. Ça a été merveilleux. Ça veut pas dire facile, hein, parce qu'on a eu plein de challenges et malgré tout on produit quand même certaines choses dans des certaines quantités. Alors on n'est pas, on essaie de protéger au maximum notre système de production, donc on a des limites, donc on peut pas non plus produire des millions de robes, mais on, il y a des modèles, etc., qu'on produit quand même en quantité importante. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que tout ce système-là en Thaïlande fonctionne de façon complètement artisanale et avec des petits cahiers. Et si moi je leur demande, bon c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque si je leur demandais, mais quand est-ce qu'on va recevoir les canopies en Dusty Pink, et ben là tac 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 tac, ils vont ouvrir les petits cahiers et ils vont dire bon alors il y en a tant chez les femmes, il y en a tant en packaging, en contrôle qualité, il y en a tant, et puis ils remontent les informations comme ça, et on dirait du papier à musique quoi. Bon, c'est, moi je suis en totale admiration, parce que il faut savoir quand même que c'est un peu n'importe quoi ce qu'on a fait. Alors aujourd'hui c'est un peu plus courant, mais quand tu te dis que t'as une petite robe pour petite fille, qu'elle existe en 15 couleurs, en 6 tailles, que ça fait déjà 90 modèles différents, 90 par code différents pour la même robe, c'est un peu n'importe quoi, c'est très compliqué. Et ben pourtant ça marche.
Et alors donc tu parlais de tout l'aspect commercial.
Ouais.
Ça a été quoi les gros challenges? Vous avez commencé à vendre, j'imagine, dans les boutiques françaises.
Ouais. Et puis oui aussi dès le départ en Hollande, en Italie, en Espagne, tout de suite on a eu des clients de différents pays. Mais ce qui se passe c'est que on a vraiment eu beaucoup de succès. Alors quand on a fait le premier Maison Objet, moi j'étais déjà, je n'en revenais pas que les gens veuillent acheter nos choses. C'était, j'étais là, mais ça leur plaît, mais oh. Et donc, pendant les premiers salons, on avait tendance à ouvrir des comptes, à prendre les clients, à accepter les boutiques qui voulaient nous revendre, sans se poser de questions. Mais après, en production, c'était autre chose. Parce que après, il faut produire tout ça, et produire dans les mêmes conditions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'inverse des pays qui produisent principalement de façon industrielle, où quand on va dire voilà, j'en veux 1000 et j'en veux 10 000 et j'en veux 100 000, le prix va décroître. Quand on produit vraiment à la main, tel qu'on le fait de façon complètement artisanale, c'est l'inverse. Plus on a besoin, plus ça coûte cher, parce que plus on doit aller loin dans les provinces, plus on doit former, plus on doit acheter de matériel. Donc, c'est complètement, on s'est retrouvé dans un total décalage entre l'offre et la demande. Et donc, il a fallu faire machine arrière. Parce que on est arrivé à un moment où on avait, je sais plus combien de revendeurs, je pense à environ 200 revendeurs, et ça devenait n'importe quoi parce que parfois il fallait qu'ils attendent un an avant d'avoir un produit. Et on se retrouvait, nous, l'équipe, à avoir des clients insatisfaits, vraiment pas contents, et alors qu'on faisait ce qu'on pouvait, et là j'ai dit non, c'est pas possible, on fait pas ce métier-là pour que les gens ne soient pas contents. Moi, je mets de plus en plus la pression en Thaïlande et c'est pas non plus ce que je veux. Et donc là, j'ai pris une décision qui a été difficile pour l'équipe, difficile pour tout le monde, et j'ai dit, on va réduire les comptes. Et on est passé de 200 comptes à 50 comptes pour pouvoir continuer à produire de la même façon. Voilà. Donc ça a été un vrai challenge parce que c'est, puis je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai embauché une nouvelle directrice commerciale. Et donc, je lui avais pas dit, quoi. Et puis, au bout d'un mois, je lui dis, bon, tu sais, on va fermer les comptes. Elle me dit, c'est pas possible, tu m'as pas engagé pour ça. Je lui dis, si, moi, je t'ai pas engagé pour que tu développes du chiffre. Je t'ai engagé pour que on s'occupe bien de nos clients. Pour que. Et donc, ça a été terrible. Terrible. Terrible pour elle. Et j'en suis désolée. Mais, c'était pour moi le seul moyen de me sentir bien, et sincèrement l'objectif c'était que moi je me sente bien, parce que je n'arrivais pas à accepter qu'on fasse tout ça pour finalement vivre mal, le vivre mal, c'est-à-dire d'un côté des gens pas contents, de l'autre côté mettre une pression, quoi. C'était, mais c'est complètement incohérent ce truc. Et on est complètement bloqué parce que c'est comme ça que le monde de la mode ou quoi, comme ça que ça fonctionne. Plus on ouvre de clients, mieux c'est. Et puis là, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc on va revoir complètement tout ça et on va essayer de faire les choses, en tout cas en ce qui me concerne, pour avoir la sensation de rester libre. Et c'était c'est mon plus gros challenge. C'est comment continuer à travailler tout en n'étant pas enfermé dans des systèmes. Où finalement après, on se reconnaît plus, on regrette, on n'est pas content, on manque de liberté, de créativité. On essaye de nous mettre dans une boîte, mais nous on veut pas y aller. Donc c'est un vrai challenge.
Ouais. Et à quel moment vous avez créé le site web alors ?
Bah il y a un an.
Ouais, c'est tout récent.
Ouais, c'est tout récent parce que déjà on n'arrivait pas à produire assez, donc on n'allait pas en plus nous. Produire, mais c'est né aussi d'une volonté d'être aussi libre dans la façon de présenter nos choses. Donc, il y a 2 ans, on a créé le lieu à Ibiza, l'atelier qui est un lieu de vie, on en parlera après si tu veux, et où c'est essentiel pour moi qu'on se sente libre de présenter ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et l'e-shop est aussi une continuité de ce besoin. Parce que c'est vrai que je comprends très bien nos revendeurs et ont un calendrier de commandes, etc. Et on a beaucoup de mal à le gérer de cette façon-là, quoi. Moi, j'ai du mal. Déjà, il n'est pas question que je me dise alors qu'est-ce qu'on va créer cette année, parce que ça vient jamais comme ça. C'est ok, on fait ça. Et peut-être qu'une année il va y avoir plein de choses, peut-être que l'autre année il y aura rien du tout, et je vais me sentir bien avec ça. Et donc et d'ailleurs les revendeurs qui sont encore là avec nous, en réalité sont ceux qui ont réussi à s'adapter et à comprendre ce besoin là et de le respecter. Même si je sais que c'est pas facile pour eux, mais c'est essentiel que nous au moins on soit en accord avec ce en quoi on croit, parce que sinon c'est une tromperie, quoi. C'est un truc qui ça va pas aller. Donc oui, effectivement, l'e-shop aussi nous permet ça, c'est-à-dire que on va aussi vendre, on va dire les archives. Alors que pour moi, une robe, même si elle est dans cette couleur-là et pas dans cette couleur-là, pour moi, elle doit pas être dévalorisée par rapport à une... Vous voyez, il y a tout ce fonctionnement-là dans ce monde que je ne connais pas du tout en réalité, que j'ai pas envie de suivre. Donc, on fait un peu comme on veut. Et donc, le site nous permet ça, nous permet aussi d'être en contact direct via message avec nos clients, et ça c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'en réalité pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on ouvre l'atelier, on n'a jamais vu nos clients, quoi, nos clients finaux, je veux dire les mamans, les enfants qui portent nos choses, on les connaît pas, et donc là on se sent plus en contact, on a un feedback immédiat, c'est différent.
Et alors comment tu t'es retrouvée à Ibiza?
C'était en même temps, c'était il y a 12 ans, en même temps que j'ai créé Numéro 74, dans ce moment de vide, je veux rencontrer le vide, je divorce, et je viens en vacances chez une amie, première visite, je dis mais con, je comprends pas pourquoi t'es là, j'aime pas du tout. Alors j'étais à Ibiza, pas loin d'Ibiza-ville, quand j'ai pas accroché, puis je suis retournée, puis j'ai rencontré un autre Ibiza, et là j'ai dit ok, je veux finir là, donc je me suis acheté une toute petite maison, minuscule, un peu dans la pampa, et j'ai dit ce sera ma maison de retraite, quoi, où je voudrais passer la fin de mes jours. Et puis finalement, je réalisais que Je me sentais de mieux en mieux ici. Donc, j'ai commencé à vivre dans 3 endroits différents parce que l'entreprise était en Italie, parce que numéro 74, on l'a créé en Italie avec cette amie. Je vivais à Paris et je vivais à Ibiza et en Thaïlande. Donc, en fait, non, c'était 4. Et je voyageais beaucoup. Le confinement m'a apporté le fait de ne pas pouvoir voyager. J'adore parce que normalement, je ramais plus de 3 semaines quelque part. Et donc, j'ai décidé de passer le plus de temps possible là. Ensuite, à partir d'un certain moment, donc c'était il y a 7 ans, je pense, 6 ans, 7 ans, on s'est séparés avec mon associé. On n'avait plus la vision commune. Et donc là, j'ai dit, bon, bah alors, quitte à recommencer ailleurs, on va mettre le bureau à Ibiza. Et donc, on a recruté une équipe à Ibiza. Voilà.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous travaillez toujours avec la Thaïlande ou plus du tout ?
Bien sûr.
Notre
production est en Thaïlande.
Ok, tout est resté...
Tout est en Thaïlande. Et nous sommes en train de travailler sur... En fait, j'ai fait une rencontre incroyable il y a quelques mois d'une femme qui a travaillé, qui est une pointure dans le monde de la mode et de en tant que directrice de production. Elle a travaillé pour des marques incroyables et on s'est rencontrés, on a eu un coup de foudre. Elle a énormément d'expérience, ça fait très très longtemps qu'elle est dans le métier, bien avant moi. Et donc, on a décidé ensemble qu'on allait essayer d'ouvrir un petit peu la production sur d'autres pays. Si on arrive à produire, on peut pas dire comme en Thaïlande parce que chaque pays est différent, mais en essayant de maintenir les raisons pour lesquelles on fait les choses et de comprendre comment ça se passe là-bas. Et donc là, on est en train de travailler sur le développement de production. On travaille actuellement sur le Portugal. Quoi. On est en train de mettre en place les choses sur le Portugal. Ensuite, on va essayer de développer au Maroc et puis en Inde. Mais bon, c'est encore... C'est le début.
Et alors, à Ibiza, tu as aussi développé ce dont tu parlais, l'atelier 74. C'est un peu une extension physique, justement. Là, tu es complètement au contact des clients.
Oui. L'objectif, c'était de créer un lieu de vie où on allait mélanger plusieurs activités. La partie boutique, en vendant nos produits. La partie nourriture, donc on vient sur place, mais on peut aussi manger quelque chose. La partie créative, donc à travers des workshops créatifs où on va pouvoir venir et s'apercevoir qu'on est capable de faire nous-mêmes le joli pull qui est en vente dans la boutique. C'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que il y a un petit peu de la place pour tout le monde, c'est intergénérationnel. C'est vraiment se prouver qu'on est capable. Moi, je crois que la créativité, c'est une merveilleuse médecine. Et donc, d'essayer de réveiller un petit peu tout ça, ça m'habite beaucoup. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que donc, on essaye aussi de voir si on peut produire un petit peu localement. Donc, on a mis en place cet hiver, on a créé une collection tricotée à la main à Ibiza. Donc pour l'instant, on l'a vendu que via notre web de l'atelier à Ibiza. Mais pour l'hiver prochain, on vendra la collection directement sur notre site, notre e-shop général, pour qu'il y ait des femmes aussi à Ibiza qui travaillent dans une période où c'est très 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 compliqué parce qu'on est une île qui vit 100% du tourisme. Et donc, c'est bien compliqué ici, ouais.
Ouais.
Voilà, et donc ce lieu de vie, c'est un mélange de tout ça, avec derrière un vrai objectif, une vraie investigation. Pour moi, c'est un laboratoire et qui touche deux choses. Pour moi, d'une partie, c'est la partie un peu structurelle, c'est-à-dire que on a mis en place une fondation, donc une non-profit organization et une profit business Moi, je pense que ces activités, elles doivent être liées sous deux entités différentes. D'une part, pour pouvoir équilibrer, parce que aujourd'hui, si tu veux, c'est la plupart des lieux où on peut faire des workshops, etc. C'est très difficile pour les gens que ce soit rentable, qu'ils puissent vivre de ça. C'est extrêmement compliqué. Un lieu coûte cher, les charges, quoi, c'est compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire. Donc, à moins que ce soit géré par une association, etc., qui va avoir des financements externes, c'est difficile de le mettre en place. Ou alors, à moins d'être très cher et d'être très ciblé par rapport à sa clientèle, etc. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut rendre un peu plus accessible les choses via une fondation en considérant que c'est le côté business qui va supporter la fondation. Donc, est-ce que, à travers un modèle, ça n'aurait pas du sens que, naturellement, on associe en permanence une notion de profit et de non-profit. Donc, ça, c'est une expérimentation pour pouvoir permettre d'avoir ces activités et qu'elles ne dépendent pas de fonds extérieurs. Et l'autre chose, donc, et voir si ces quatre activités qui sont production, petite production locale, vente de produits sur place, workshop et nourriture, parce qu'on a ces quatre activités ensemble, on arrive à être autosuffisant. Donc ça, c'est vraiment le test. Parce que moi, je crois très fort qu'on est là pour vivre nos rêves et qu'il y a beaucoup de gens qui ne se donnent pas les moyens de vivre leurs rêves, mais que si on arrive à mettre en place des petits modèles économiques qui vont aider les gens, inspirer les gens, peut-être que certains sauteront le pas. Peut-être que seuls, ils ne le feraient pas, mais si on se retrouve un cuisinier avec une professeure de yoga, une personne qui aime la céramique, quelqu'un qui est décorateur, ensemble, ils pourraient peut-être faire quelque chose qui serait leur projet. Donc ça, c'est un aussi des objectifs. Et au niveau humain, interne, c'est est-ce que comment on va essayer, on va, c'est vraiment, c'est une investigation, hein, on est confronté à plein de challenges, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est juste de comprendre si on peut y arriver, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc au niveau humain, c'est essentiellement créer un espace qui va surtout empower les gens qui travaillent, prise de responsabilité, prise de risque, sortir de sa zone de confort, se confronter à nos limites, à nos problèmes de communication, de peur, de tout ce qu'on connaît en tant qu'être humain. Et est-ce qu'on pourrait créer quelque chose qui soit aussi ni complètement vertical dans la façon dont c'est fait, ni complètement horizontal, mais entre les deux, c'est-à-dire avoir des personnes qui ont cette capacité à prendre des responsabilités, un mélange, et voir si de cette façon-là, ben, les gens qui sont là vont aussi acquérir en confiance, en expérience, pour après aller pour leur propre rêve. Donc voilà, ça c'est aussi l'autre partie du à quoi sert l'atelier. Donc sous la façade d'un lieu assez joli où on s'y sent bien, bah il y a un vrai travail derrière qui est de comprendre si on pourrait faire les choses, je veux pas dire autrement, mais à notre manière, et voir ce que ça donnerait. Voilà.
Et quand même hyper tourné vers les autres dans ton propre cheminement. Est-ce que tu penses que justement ça vient de ta maman que tu voyais peut-être un peu complètement renfermée dans ses peurs et dans ses...
Alors, ça vient de mon enfance, je n'ai pas de doute, mais je le vois pas tout à fait comme ça. Pour moi, je me suis fait la promesse étant petite fille de sauver ma mère, de sauver les gens. En conséquence, et donc j'ai fait des choix de vie qui sont tournés vers ça, mais ensuite j'ai compris que je pouvais sauver personne, parce que j'ai réalisé que je pouvais pas sauver ma mère et que je ne pouvais sauver personne. Donc c'est quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que il fallait d'abord que je regarde moi, parce que je pense que c'est plus facile d'essayer de sauver les autres que de se sauver soi-même. Et donc là, j'ai dit, bon, bah alors, ça veut dire quoi, finalement, est-ce qu'il faut vraiment aider les autres? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut les protéger? Je suis sûre que non. Par contre, est-ce qu'il faut être soi-même et être là? Oui. Et je crois qu'en conséquence, et seulement indirectement, on peut peut-être les aider, mais pas dans une volonté d'aider. Donc, je suis encore dans ce cheminement-là où j'ai l'impression qu'il y a une très fine limite entre l'engagement de sauver les autres parce que on veut pas trop regarder en soi et l'engagement en soi-même et en conséquence être là correctement pour les autres. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes combien chez Numéro 74? Comment tu gères tout ce monde qui vit un peu aux quatre coins justement du monde?
On a rattaché à l'infrastructure numéro 74, on va dire hors Thaïlande. On est, je pense, 27, 28, 29 par là. Majoritairement à Ibiza et 4-5 personnes en télétravail. Et puis ensuite en Thaïlande, on est une centaine à l'atelier en Thaïlande. Et puis environ 400 femmes qui travaillent de la maison.
Comment tu gères tout ça?
Moi,
tout ce monde?
Je me pose pas de questions. Je sais pas du tout. Bah, d'un point de vue administratif sur l'Europe, bah, il y a Calice qui s'occupe de toute l'administration sociale, etc. et d'autres choses. En Thaïlande, ils sont vraiment, c'est chez moi, mais c'est chez eux. Donc, c'est pas moi qui gère ça. C'est à Manop, mon associé, qu'il faudrait demander comment tu gères ces 500 personnes. Et puis, bah, il te répondrait, je sais pas. Je le fais, c'est tout. Et, bah, oui, c'est pas tous les jours facile. Hein. La chose qui est intéressante, en tout cas, des expériences de ces dernières années, où aussi il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire que les personnes qui ont travaillé avec moi depuis 9, 10 ans, 11 ans, depuis quasiment le début, on va dire qu'au départ, elles s'étaient engagées pour travailler pour une marque qui fabrique, qui vend, c'est joli, on vit dans le monde de oui-oui, tout va bien, etc. Mais bon, depuis 3 ans, je me pose quand même pas mal de questions et je remets tout en question. Donc en remettant tout en question, alors il y a bien sûr, bah, la première chose c'était la fermeture des comptes clients, après, bon bah créons une ligne de kit créatif pour enfants et pour adultes aussi, mais quoi, un peu. Et maintenant je voudrais faire un projet qui, bah, tout ce que je t'ai raconté avant, c'est-à-dire mettre l'humain, le social, l'investigation au cœur du projet et non plus le fait qu'on vende des produits. Et ça, c'est pas simple parce que tout a changé. Même si peut-être qu'à l'origine, depuis le départ, la mission est la même, je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Numéro 74, c'est pas une marque de produit. Non. C'est un laboratoire d'essai où on pourrait y faire tout ce qu'on veut. Et que ce soit produire quoi, toute forme de création qui n'est pas forcément matérielle. Donc bah, y a des gens qui ne se sont plus reconnus parce que forcément quand on touche à tout ça, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et j'ai eu tendance à protéger beaucoup, c'est-à-dire que toujours dans les conséquences directes de l'enfance, un besoin d'être aimé qui dépasse tout. Donc pour être aimé, bah je vais être la super maman qui va protéger tout le monde, qui va gâter tout le monde et qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas... Mais, et là, je me suis réveillée un jour, je dis mais c'est n'importe quoi, il faut que j'arrête de protéger tout le monde. Et donc là, je remets tout en question. Alors ça bouge, c'est très dur hein, pour les gens qui travaillent avec moi parce que les choses sont à remettre en question assez souvent. Et donc il y a des personnes qui partent, elles ne se reconnaissent plus, et ça c'est très courageux pour moi parce qu'on peut aussi à la fois avoir un confort de travail dans le sens où peut-être on travaille à distance ou peu importe quoi, on a un certain confort, mais quand on est confronté au fait de voir qu'on n'est pas, qu'on raisonne plus vraiment avec pourquoi on fait les choses, ben oui, il y a des gens qui partent et puis il y en a d'autres que ça permet de découvrir ce dont ils ont vraiment envie de faire, donc c'est un passage et je trouve tout ça merveilleux, mais ça veut pas dire que c'est facile. Non, mais maintenant j'exprime, J'essaye d'exprimer mes besoins pour éviter des deux côtés, les déceptions, etc. C'est magnifique. C'est très dur et magnifique.
À quoi elles ressemblent tes journées ?
Il n'y en a pas de pareil, non. Alors, c'est vrai que depuis un an, je suis à Ibiza, je n'ai pas bougé. C'est la première fois parce que sinon, je passais. Normalement, c'était à peu près un mois Thaïlande, un mois Ibiza, un mois Thaïlande, un mois Ibiza. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est un joyeux bordel parce que je passe du coq à l'âne tout le temps. Donc, alors là, depuis cette année, depuis le Covid, la chose qui est géniale pour moi, c'est qu'avant, j'avais pas du tout, on faisait pas de création ici. Tout était en Thaïlande, mon bureau de création. Donc, c'était là-bas que j'allais, je m'immergeais, puis on créait, on testait, parce qu'on a donc une équipe prototype là-bas, etc. Et donc là, j'ai décidé d'avoir aussi une équipe ici pour ça. Donc ça nous permet de donc je vais commencer normalement ma journée autour de 5h du matin. Je vais passer 3-4 bonnes heures sur mon ordinateur pour pouvoir avoir le sentiment de on va dire 3 heures d'avoir bien avancé avant que tout le monde se réveille. Donc ça c'est la base. Quoi, tout le monde, je vis seule. Quand je dis tout le monde, c'est l'équipe. Ouais. J'adore travailler quand on a l'impression que tout dort autour. Ensuite, je vais travailler plutôt en ligne avec les gens qui sont à distance. Ensuite, je vais passer à l'atelier. Et là, bah alors, ça va être, on va goûter une nouvelle recette, on va planter, on va essayer un nouveau modèle, on va couper, on va casser n'importe quoi. Il n'y a pas du tout de structure. Il n'y a pas de structure. On passe. Et ça, c'est vraiment une vraie qualité qu'il faut avoir quand on veut travailler avec nous. Il faut être flexible, il faut savoir s'adapter, se mélanger à tout et y aller.
Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi ?
Je suis très addict au travail. C'est ce qui me passionne le plus. On va dire, quand je dis que je me réveille à 5 heures et que je me mets sur l'ordinateur, en fait, il se passe quelque chose avant que je me mette sur l'ordinateur. Donc, je me réveille entre 5 et 6, et d'abord, je reste un petit peu au lit, et j'essaie de visualiser, et donc, je continue mes rêves, et c'est là que je rentre vraiment dans le processus créatif, où je sais ce qu'on va faire bientôt. Ensuite, je fais 10 minutes de Qigong, et après, je me mets sur l'ordinateur. Et ces 10 minutes sont à moi, et je me bats pour les avoir, je me bats avec moi-même, c'est tout, parce que personne ne m'en empêche. Alors ça aussi, c'est le vrai challenge de cette année. Je suis très exigeante, très perfectionniste, et donc beaucoup de mal à déléguer. Donc j'ai toujours besoin de mettre mon nez partout, de tout contrôler. Et donc ça, on va dire que depuis 2 ans, je suis vraiment passée en vrai travail sur moi-même pour lâcher le contrôle, faire confiance. Parce que j'ai une tendance à faire confiance de nature dans un certain domaine, c'est-à-dire que ma maison est toujours ouverte, je ferme pas les portes, je laisse traîner des sous. Quand vous venez à l'atelier, les gens sont à chaque fois très surpris parce que il n'y a pas de bip, tout le monde peut. Il y a des trucs partout dans les toilettes, il y a la table à langer avec des poupées dessus, quoi. Bon, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Et les gens me disent mais tu rigoles, on va nous voler, on va. Non, t'inquiète pas, tout va aller bien. Parce que je crois profondément que si on fait confiance, et ben de l'autre côté, il n'y a pas cet effet de réaction de quand on essaye de se protéger, alors l'autre va essayer de rentrer dans l'espace et prendre, quoi. Je pense ça. Donc on a même, devant l'atelier, on a des petites maisonnettes en bois qui sont des reproductions miniatures des différents départements de l'atelier. Avec, c'est super joli, tout en miniature, la cuisine, quoi, les ingrédients, la boutique avec les laines, etc., quoi, bon. Et les filles, quand je leur ai dit, on va faire ça devant, elles m'ont dit, mais t'es folle, en 2 jours, tout va être massacré. Les gosses vont pas arrêter de toucher, ils vont essayer d'enlever. Non. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Il y a que le temps, le soleil, la pluie qui fait bouger. Puis de temps en temps, on va avoir une bougie qui aura été allumée ou mais des choses. On sent même que c'est pas un besoin d'abîmer, c'est un besoin de participer, de faire partie. Ou ni de voler, de faire partie. Donc j'ai cette façon assez naturelle de faire confiance à ce niveau-là. Par contre, quand il s'agit d'élaborer un travail, de créer quelque chose, il faut que j'aille regarder, il faut que j'aille, parce que en fait j'ai l'impression que je sais tellement déjà ce que je veux, je le visualise avant qu'il existe, que c'est difficile pour moi qu'il ne soit pas comme je voudrais qu'il soit. Mais ce que je suis en parallèle en train de découvrir, c'est que cette perfection et ce contrôle me tuent. Je me sabote avec ça, et que en réalité, quand on arrive à traverser une étape avec les gens avec lesquels je travaille, où la confiance s'installe, c'est un vrai cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde. Donc c'est on va dire qu'il y a ce mécanisme qui est assez récurrent. Quand une nouvelle personne arrive dans l'équipe, elle commence d'abord par... D'abord, elle est super enthousiaste. Elle dit « Oh là là, je vais travailler dans la boîte la plus incroyable du monde. » Mais ça, c'est... et très vite, ah bah alors là, elle va perdre complètement ses moyens. Elle va plus savoir quoi faire. Entre le côté touche-à-tout de cette entreprise... Et ma façon à moi de faire complètement déstructuré, quoi. À la fois très structuré, parce que je pense qu'à l'intérieur, je suis très structurée, mais ça a l'air très confus tout ça. Mes difficultés à exprimer, etc. La personne passe dans un grand vide où là, elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Elle n'est plus capable de rien faire de bien. Donc il y a un moment charnière. C'est est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle part, et est-ce qu'elle s'accroche ou est-ce qu'elle part. Et si elle s'accroche et si elle commence à comprendre que l'objectif n'est pas finalement de me satisfaire, mais de contribuer au projet en se satisfaisant elle-même avant tout, là les résultats sont incroyables. Donc voilà le le challenge, et je suis contente parce que j'avance tout doucement sur mes problèmes de contrôle et de perfectionnisme, mais j'avance.
T'es complètement à contre-courant d'un petit peu de tout ce qu'on voit dans notamment l'univers de la mode, où faut que ça produise, faut que ça aille vite, faut que le bénéfice soit là. Comment tu réussis toi à survivre, on va dire, à vivre plutôt dans ce milieu
J'ai aucune idée. Je me pose pas de questions. Je pense qu'on est nombreux, on est de plus en plus en tout cas à faire les choses peut-être différemment de comment elles sont faites depuis une trentaine d'années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je travaille pas pour amonceler de l'argent. Je crois qu'aujourd'hui j'ai moins d'argent que quand je l'ai créée il y a 12 ans, cette entreprise, parce que je passe mon temps à tout remettre dedans et à aller vers de nouveaux challenges qui coûtent des sous, des expériences qui coûtent des sous, vraiment. Et que c'est ça qui m'habite. Et donc, je pense que quand on est vraiment dicté par un désir, une vision très très forte, je crois qu'on nous soutient. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. Je pense que l'univers nous soutient dans nos démarches. Donc, je m'accroche à ça, mais je passe par des grands moments de peur et puis des moments où ça va mieux. J'ai une nature plutôt. Je suis plutôt angoissée, surtout au niveau financier, etc. Et d'un autre côté. Quand je sors un petit peu de cette peur, je m'aperçois que tout va bien. Oui, qu'on s'en sort toujours finalement, quoi. Même si parfois on a l'impression à un moment donné que tout va s'effondrer. Parce que j'ai eu des moments comme ça où je me suis dit que tout allait s'effondrer. Et puis finalement, non, ça s'est pas effondré. Il y a eu un moment important, il y a à peu près, je pense, 4 ans, où j'ai commencé à me poser des questions, ou même j'ai commencé à me dire, mais quel est vraiment l'objectif? Est-ce que c'est juste de vendre? Alors, c'était, est-ce que c'est juste? Tu as une vision, tu prends du plaisir à la fabriquer, tu es fière de toi de l'avoir faite, les gens l'aiment, hop. Je me suis dit, ça peut être ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est quoi? Et donc là, soudainement, m'est venu, ouvrir un orphelinat en Thaïlande. Donc, j'ai laissé cette petite idée à l'intérieur de moi, un moment. Et puis, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, non, non, non. Ça, t'es en train d'essayer de compenser l'histoire de ta mère, mais pas la tienne. Donc, non, donc pas d'orpheline en Thaïlande. Et aussi, même si je me sens chez moi en Thaïlande, je réalisais en vivant en Thaïlande et en Europe, dans mon monde, que en Thaïlande, ils n'ont peut-être pas accès à tout le confort et un tas de choses que nous, on a. Mais ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Et chez nous, où on est un monde où on a accès à tout, et ben on est tous de plus en plus déconnectés de nous-mêmes, connectés à des machines. Alors pourquoi je vais essayer d'aller faire quelque chose en Thaïlande, si je considère que déjà en plus en Thaïlande c'est plutôt sympa ce qu'on fait, à travers les femmes, etc. Et pourquoi ce serait pas chez nous ? Et donc c'est de là qu'est venue surtout ma motivation de créer un lieu de vie, commencer à créer des kits créatifs, essayer de réveiller des choses chez les gens où je pense que ça peut vraiment nous apporter quelque chose. Voilà, je pense que ce point, il est important, ce cheminement-là. Mmh. Et donc l'atelier, par exemple, à Ibiza, pour moi, en réalité, c'est un projet pilote que j'ai fait à Ibiza juste parce que j'y vis, mais il répond pas exactement au contexte pour lequel je l'imagine. J'aimerais peut-être idéalement en ouvrir dans certaines villes, que ce soit un lieu de vie en ville, parce que je pense que c'est en ville qu'on a un vrai besoin de connexion, plus qu'à la campagne, parce qu'à la campagne on l'a pas perdu. Je suis une enfant de la ville, j'ai pas du tout été sensibilisée à la nature étant petite. J'ai découvert la nature très tardivement en venant à Ibiza quelque part. Alors je pourrais plus retourner en ville, mais donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire en ville et qui pourraient apporter un petit peu aux enfants des villes. En fait, il y avait une chanson, c'est assez incroyable. Quand j'étais petite, il y avait un chanteur, Michel Fugain. Je sais pas si tu connais, qui avait un groupe qui s'appelait le Big Bazar. Et donc, en 1974, mes parents m'ont emmené avec mon grand frère voir le Big Bazar à l'Olympia. J'ai raconté quelque chose de très personnel. Et j'ai oublié cette expérience-là. Et il y a peut-être 6 ans, 7 ans, quand je suis partie définitivement de Paris, j'ai laissé ma maison là-bas. Mon grand frère m'a offert un tourne-disque pour emporter avec moi. Il m'en a offert 2, un pour Chiang Mai et un pour Ibiza, avec le disque de l'Olympia de 1974. Et nous avons écouté ce disque et nous nous sommes aperçus que nous connaissions toutes les paroles de toutes les chansons, mais pas seulement des chansons, aussi des mots qui sont dits entre les chansons, puisque c'était un enregistrement sur scène. On s'est regardé, on a dit, mais comment c'est possible? Tous les deux, on chantait comme ça, ça sortait. Et après coup, et donc dans ce disque, parce que du coup, quand j'ai découvert ça, peut-être pendant 6 mois, je n'ai fait qu'écouter ça. Et j'ai entendu des messages dedans. C'est-à-dire qu'il y a une chanson qui s'appelle, par exemple, « Les rues de la grande ville ». Et donc, dans cette chanson, il parle d'un enfant ou d'une personne, en tout cas, pour moi, c'était moi, qui vivait en ville, mais qui n'arrivait pas, qui voulait rentrer dans la ronde, mais qui n'y arrivait pas. Et pourtant, c'est tout ce que cet enfant a, ce sont les rues de la grande ville. Et là, je me suis dit, mais c'est mon histoire. Et donc, j'ai commencé à rallier un petit peu les points comme ça. Et j'ai réalisé, en réalité, que dans le chaos de la maison, quand ma mère était en crise, eh ben mon frère et moi allions dans notre chambre, nous dormions dans la même chambre et nous mettions ce disque. Et c'est pour ça que ces paroles sont... On s'est accroché à ça. Mmh. Voilà. Donc moi aussi, je suis émue.
Ouais. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, toute cette aventure entrepreneuriale ?
Je pense que ça me permet, au fur et à mesure, d'être plus moi-même, d'essayer de libérer certains traumatismes, déprogrammer certains programmes très très forts qui nous sont mis soit par nos parents, soit par la société, peu importe, il n'y a pas de coupable là-dedans, on est tous dans le même truc. Et puis voilà, d'essayer de me libérer, et c'est le travail d'une vie, et pour moi, cette entreprise contribue à cette évolution pour moi-même. Et ce que j'espère, en tout cas l'objectif, c'est que les personnes qui travaillent avec nous le prennent de cette façon-là, parce que je pense quelque part que c'est un cadeau si on peut intégrer cette notion de croissance, développement dans notre quotidien via notre travail et via ce qui nous permet de vivre financièrement. Voilà.
Quel conseil tu pourrais donner à une jeune femme ou un jeune homme qui voudrait se lancer dans son entreprise, dans l'entrepreneuriat ?
Pour moi, une des choses qui est extrêmement importante, c'est de protéger son rêve. En tout cas, de mon expérience, quand j'ai un rêve, une vision, j'ai envie de la partager. J'ai envie d'avoir le feedback, j'ai envie de pas être seule dans ce rêve. Et d'un autre côté, le partager, quand on le partage, on prend le risque de s'exposer. Et que des personnes qui ne peuvent pas comprendre ce rêve-là vont avoir un comportement où on va sentir notre rêve abîmé ou agressé. Et je pense que, en tant qu'entrepreneur, c'est important d'accepter au départ que d'un côté on va être profondément seul et que cette solitude c'est aussi une façon de nourrir ce rêve et de le protéger et qu'on a besoin des autres pour le réaliser aussi. Donc ce serait ne jamais laisser personne abîmer son rêve.
Et alors quels sont les projets pour numéro 74
L'atelier, c'est un gros projet où il faut qu'on fasse fonctionner cette chose correctement, pas que au sens de c'est joli, etc. Est-ce que l'objectif qui est à l'intérieur, l'intention, toute l'intention qu'on y met, est-ce qu'on est en phase, est-ce que ça peut fonctionner, etc. En tout cas, on est en train de le faire, donc on essaye et on va continuer. J'ai plein de rêves, là rien que d'y penser. Il y avait une des choses que j'ai mise de côté pour l'instant, avec le Covid, et parce qu'en réalité j'ai une wish list immense, et il faut avoir les gens pour pouvoir la réaliser, la wish list. Mais une des choses, un des projets que j'aimerais arriver à mettre en place, ce serait de travailler avec plus de femmes. Et c'est ce qu'on essaye de faire en production ici, mais pourquoi pas que forcément en production, ça peut être aussi sous forme d'ambassadeurs, de workshops, de je sais pas quoi, de créer un réseau de femmes dans le monde entier, indépendantes, qui ont besoin pour pouvoir vivre mieux d'un petit revenu en plus, par exemple, mais aussi pour qu'elles puissent garder actives au maximum ce qu'elles aiment faire. Parce que, pour moi, c'est essentiel. Certaines personnes vont travailler une grande partie de leur temps dans une banque pour pouvoir nourrir la famille et vont mettre complètement le couvert sur ce qui pourrait les habiter, sur leur passion, ce qui leur plaît. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dommage. Il y a une notion, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, il y a quelques années, je découvrais la notion d'ikigai. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une... Ça vient de ces philosophies japonaises où on te dit que tu as compris le sens de ta vie ou que tu es en phase avec ta raison de vivre si tu es équilibré dans les différents domaines qui sont la passion, la mission, la vocation et la profession. Et je trouve qu'on vit dans un monde où tout est très séparé, c'est-à-dire qu'on va avoir un travail pour pouvoir manger. On va s'octroyer 2 heures de son temps pour pouvoir faire sa passion. On va tous les mois aller faire 2 heures de bénévolat parce que c'est ce dont le monde a besoin. Et on va pas connecter tout ça. Et l'idée pour moi avec cette entreprise, c'est d'arriver à connecter ça déjà au sein de l'entreprise.
Et quels sont tes projets rien que pour toi ?
Alors, rien que pour moi. Je vais recevoir la semaine prochaine une voiture et je vais aménager l'arrière de cette voiture pour pouvoir y dormir. Je n'ai jamais fait de camping à 50 ans et je veux pouvoir être libre de partir. Alors, j'ai la chance d'habiter aux Baléares, donc je peux aller d'une île à l'autre facilement. Je suis tombée en amour pour l'île de Minorque. Et je veux pouvoir prendre le bateau, mettre la voiture et puis aller dormir dans la voiture avec le coffre ouvert et regarder la nature. Voilà, ça c'est, wow. C'est matériel, mais je pense qu'en réalité c'est un outil matériel qui peut m'aider à passer des moments incroyables.
Merci infiniment Tara.
Merci Shine. À bientôt.
Découvrir d'autres horizons pour revenir à l'essentiel, l'aventure de Tara nous montre que c'est toujours possible quand on entreprend. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné l'envie d'aller au bout de votre projet. Vous pouvez retrouver toutes les merveilles en gaze de coton faites à la main sur le site numéro74.com. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon family.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.